La classe de 4ème G.
Oh, la classe de 4ème G.
Présente
l'apérophonie.
Sur Radio Campus.
Oh. Yeah, yeah, yeah. Sur Radio Campus.
Baba Banks.
Bubu Banks.
Yeah, yeah.
Gang, gang.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour Alicia.
Bonjour Capucine.
On espère que vous allez bien. Actuellement, nous sommes sur Radio Campus et nous allons parler de la liberté.
Nous sommes sur une radio-école et le sujet sera présenté par une classe de 4e du collège de La Salle L'Aigle Grenoble.
Nous allons maintenant laisser la parole à Alex et Baptiste pour le sommaire.
Merci à vous.
Aujourd'hui, on va parler de la liberté sous plusieurs aspects. Des journalistes en herbe viendront nous parler des sujets qui leur tiennent à cœur.
Nous allons parler vêtements, religion, informatique.
Et pour fluidifier le tout, musique.
Et nous remercions nos deux techniciens, Alex et Baptiste, pour la réalisation de ce programme. Et Alicia et Capucine pour la présentation de ce programme.
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble, présentée par la 4e du Collège de l'Aigle.
Au travail, dans la rue ou en milieu scolaire, notre style vestimentaire est très important. On dit qu'on est libre de nous habiller comme bon nous semble, mais le sommes-nous vraiment ? C'est ce que nous allons voir.
La liberté vestimentaire, une chronique présentée par Lucie,
Olivier,
Chirel,
pour Campus Grenoble.
Tous les matins, on se pose tous la question, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui ? Que l'on soit jeune ou pas, femme ou homme, à l'école, au travail. Mais avons-nous vraiment le choix ? Parfois, dans le cadre du travail, le choix de notre tenue vestimentaire est réglementé.
Est-ce que vous vous sentez libre de vous habiller comme vous le voulez sur votre lieu de travail ?
En parlant de pantalons, saviez-vous qu'avant 2013, les femmes n'avaient légalement pas le droit de porter des pantalons ? Avant ça, un petit point historique s'impose. Avant 1800, aucune femme ne portait de pantalon. Ce n'est que vers les années 1800 qu'une femme a porté un pantalon. À l'époque, interdire le port du pantalon aux femmes était un moyen de s'assurer qu'elles ne travailleraient pas et qu'elles resteraient à la maison. Le port du pantalon pour les femmes ne se démocratisait qu'à partir de 1973. L'ordonnance de 1800 interdisant le port du pantalon aux femmes a été abolie seulement en 2013. Mais que dire du port de la robe étant réservé aux femmes ? Eh bien oui, avant que les robes et les jupes ne soient associées aux femmes, les hommes en portaient également et c'était même un symbole de virilité antique. En effet, les Romains portaient des toges et ce vêtement était considéré comme étant unisexe. Mais alors pourquoi les hommes ne portent plus de robes ? C'est au XIVe siècle, lorsqu'une nouvelle veste plus complexe à coudre et plus confortable à porter pour les hommes se popularise, que les normes vestimentaires changent. À présent, qu'en est-il de la liberté vestimentaire en milieu scolaire ? Certaines écoles privées imposent l'uniforme, mais pour la plupart des écoles, seul un règlement intérieur impose des critères précis. Par exemple, dans notre établissement, les accessoires sont prohibés, notamment les chapeaux, ainsi que les jeans troués et les vêtements dits trop courts, comme les crop tops et les jupes courtes. Les vêtements sportifs sont réservés aux cours de PS. Évidemment, les signes extérieurs de religion sont strictement interdits dans les établissements laïques. Maintenant, voyons ce qu'en pensent les principaux concernés.
Est-ce que vous vous sentez libre de vous habiller comme vous le vouliez au collège ?
Oui, je me sens plutôt libre de m'habiller comme je veux au collège. Moi, je pense que c'est quand même plutôt bien parce que, certes, on a une liberté de s'habiller, mais après, si on a, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, donc comment on s'habille. Donc, je pense que c'est quand même bien d'avoir quelques règles sur comment on s'habille au collège, etc.
Non, pas vraiment, parce qu'on n'a pas le droit de porter tous les habits qu'on veut. Enfin, par exemple, on a le droit de porter des affaires courtes ou des jeans avec des trous.
Bah, personnellement, oui, plutôt. Mais j'avoue que c'est un peu plus embêtant parce qu'on n'a pas le droit de porter des jeans troués, on n'a pas le droit de porter des survêtements, on n'a pas le droit de porter tout ce qui est dans ce genre-là. Et c'est un peu limitant.
Et du coup, qu'est-ce que tu penses des restrictions vestimentaires dans ce collège ?
Bah, je pense qu'à la fois, je comprends que ce soit pour l'image du collège, mais c'est embêtant pour les élèves parce qu'on n'a pas le droit de s'habiller comme on veut et voilà.
En conclusion, dans le monde du travail, comme dans le milieu scolaire, il y a des restrictions vestimentaires dans le respect de tous. Néanmoins, dans notre société patriarcale, les femmes ont plus de restrictions. Elles essayent souvent de s'en affranchir. Le monde de la mode continue de faire sa révolution en supprimant les codes couleurs établis grâce aux vêtements unisexes.
Merci à vous pour ce micro-trottoir ainsi que ces informations historiques. nous avons pu observer l'évolution du code vestimentaire pour les hommes et les femmes. Maintenant que nous avons parlé de la vraie vie, nous allons pouvoir enchaîner avec le numérique. Place à un reportage sur les réseaux sociaux.
Nous sommes d'accord pour dire qu'il y a une grande liberté sur les réseaux sociaux. Alors, peut-on tout dire sur les réseaux sociaux ? Doit-on contrôler le contenu des réseaux ? C'est ce que nous allons voir au travers de 4 exemples réels.
Pour illustrer nos propos, nous allons aborder 4 situations de limitation de liberté sur les réseaux sociaux, de manière graduelle. En premier, nous allons voir le cas de Donald Trump, qui s'est fait suspendre son compte Twitter et Facebook. Suite à une incitation à la violence dans des publications sur ses sites, le 6 janvier 2021, des personnes ne reconnaissant pas la défaite de Trump aux élections présidentielles envahissent le Capitole aux USA.
En second, nous allons voir un cas où c'est le réseau lui-même qui contrôle les contenus. YouTube procède à un contrôle des vidéos que vous voulez poster avant de les faire. Le site pose des questions sur la vidéo et ce que vous voulez poster sur le contenu.
En troisième, nous allons évoquer la situation chinoise de la censure sur les réseaux sociaux. Le gouvernement chinois veut contrôler toutes les publications du pays sur les réseaux. Les Chinois avaient trouvé une solution pour éviter ceci, ils faisaient des vidéos en live. Après avoir découvert cette astuce, le 11 août 2017, la Chine a imposé au réseau d'interdire de faire des vidéos en live.
Enfin, nous allons parler d'un autre moyen. Erreur 404, le fruit de la guerre. La suppression d'un réseau social, ceci se déroule le 5 mars 2022, quand la Russie a envahi l'Ukraine et a supprimé l'accès des Russes au réseau social Facebook. Ceci est une censure totale de la liberté d'expression russe.
Donc, les gouvernements étrangers et le nôtre ne doivent pas contrôler des contenus sur les réseaux sociaux. Il faut que les gouvernements acceptent de se faire critiquer et laisser le peuple s'exprimer, mais il faut aussi que le peuple apprenne à critiquer sans inciter à la violence.
Donc, en conclusion, bloquer la liberté sur les réseaux sociaux ne résout rien. Il faut apprendre aux gens à se conduire de façon éclairée et développer le sens critique.
La censure est adoptée par les dictatures qui ne laissent pas les gens s'exprimer. Dans les sociétés démocratiques, nous devons apprendre à réfléchir en lisant et en publiant des articles.
Eh bien, merci à nos fabuleux auteurs qui démontrent la puissance des réseaux sociaux. Et merci à vous pour votre écoute. Et vu qu'avec les réseaux sociaux, on est déjà dans le futur, partons sur une toute nouvelle planète entre science et religion.
Bonjour à tous. Nous aimerions aujourd'hui traiter un sujet qui nous tient à cœur, la liberté de culte. Actuellement, dans notre pays, il y a une liberté de culte qui est assez bonne et nous sommes tous libres de pratiquer n'importe quelle religion ou de ne pas en pratiquer du tout. Mais est-ce la meilleure des solutions de tout autoriser ? Pourrions-nous faire autrement ?
Alicia et Capucine présentent Liberté de culte, une fiction pour Campus Grenoble 90.8.
Imaginez que deux journalistes sont envoyés à l'aide d'une machine au pouvoir multiple dans une autre dimension sur une autre planète. Celles-ci ont pour mission de rapporter tout ce qu'elles auront vu sur la planète. Relis science sur tout ce qui est en rapport avec la liberté de culte. Cette planète ne fonctionne absolument pas comme la nôtre. Elle est divisée en deux mondes totalement différents. Le premier est celui basé sur la raison et la science, tandis que le deuxième ne croit pas aux sciences et est basé sur la religion. Cependant, une seule religion est acceptée, et elle est appelée la religion unique. La science est-elle donc une croyance et peut-on la vivre comme une religion ? Je vous laisse à présent découvrir avec elle cette planète. Bon voyage à vous !
Bonjour, moi c'est Capucine et aujourd'hui je suis arrivée sur Reliscience. Cette planète ressemble beaucoup à la nôtre vue de l'espace ainsi que ses habitants qui nous ressemblent énormément. Après notre arrivée, ma collègue et moi nous sommes séparés et dirigés vers notre monde attribué. Le mien est celui des sciences. Actuellement, je me trouve dans la capitale Scienceville. Cette ville est remplie d'appareils électriques et je suppose que les habitants d'ici sont bien plus avancés que nous scientifiquement. On voit bien qu'ici la science domine tout. Par exemple, les matières scientifiques à l'école sont prédominantes et bien plus importantes que les matières littéraires. J'ai beau chercher, je ne vois aucun lieu de culte ni aucune personne portant des vêtements qui pourraient représenter leur religion. Ces personnes vivent donc sans. Je me suis renseignée et j'ai découvert qu'il y avait même des peines de prison ou bien des amendes pour toutes les personnes croyantes ou simplement superstitieuses. Je trouve quand même cela un peu radical. Mais assez parlé de ce monde, vous allez maintenant vous diriger vers le monde à religion unique.
Bonjour, moi c'est Alicia et aujourd'hui je suis arrivée sur Holyscience, comme ma collègue Capucine. Tous les humains là-bas sont semblables à nous. Lorsque nous sommes arrivés, ma collègue et moi nous sommes séparés vers le monde qu'on nous a confié. Le mien est celui de la religion unique. En ce moment même, je suis dans une ville très proche de la capitale. Cette ville est Unigion. Et ici, comme partout dans ce monde, une seule religion est acceptée et aucune autre. Dans ce lieu, beaucoup de signes religieux et de vêtements sont portés. Tout le monde porte les mêmes habits et les personnes n'ont aucun droit à la liberté de culte. La religion domine. Par exemple, à l'école, les cours de religion sont obligatoires et sont beaucoup plus pratiqués que les autres considérés moins importants. Je ne cesse de chercher, mais aucune technologie ni science n'existe ici. Ces personnes sont totalement coupées du monde et vivent pour Dieu et seulement pour lui. J'ai même eu une révélation étonnante. Si une personne est non pratiquante ou athée, celle-ci reçoit une amende ou alors une peine de mort ou de prison. Ce lieu ressemble à l'autre monde, mais ils sont en même temps complètement différents.
On espère que le voyage vous a plu et vous pouvez revenir petit à petit vers notre planète. Vous avez pu constater toutes les différences qu'il y a entre Holyscience et la Terre, et peut-être que vous vous dites que notre planète n'est pas si mal finalement. Cela vous aura au moins permis de relativiser. Plus sérieusement, cette planète d'une autre dimension est une prison pour toutes les personnes qui y vivent et les prive de beaucoup de liberté, qu'ils soient dans le monde des sciences ou de la religion. On emploie souvent le mot croyance, mais est-ce que l'on sait réellement sa véritable définition? Ce mot est-il seulement à utiliser pour la religion? Voici la définition. Une croyance, c'est le fait d'attribuer une valeur de vérité à une proposition ou un énoncé. Une croyance est donc plus ou moins fondée. Donc oui, la science est une croyance. La science, elle évolue sans cesse et n'est pas toujours fiable. Par exemple, une hypothèse scientifique est vraie tant qu'elle n'est pas contredite par une nouvelle. Notre format radio touche à sa fin, mais avant de vous laisser, encore quelques mots. Le monde actuel, nous nous situons simplement en France, n'est certes pas parfait. Cependant, à travers ce voyage, nous avons pu constater qu'il était bien moins dangereux que des extrêmes, qui nous privent de toute liberté, même si c'est pour notre bien. On espère de tout cœur que cela vous aura plu et on vous dit à bientôt.
À bientôt.
Eh bien, merci aux auteurs et merci de votre écoute. Nous avons passé un très bon moment avec cette nouvelle planète. Maintenant, nous allons passer dans un monde virtuel avec Claude et François.
Le billet d'humeur de Claude François, présenté par Gabriel, Ulysse et Loïs sur Campus Grenoble.
Nous accueillons deux personnes qui sont venues de parler de leurs avis sur les enfants et les jeux vidéo. Claude et François. Alors François, qu'avez-vous à nous dire?
Bonjour, je m'appelle François, j'ai 72 ans, je vis à Neuilly-sur-Seine. J'ai deux enfants à qui j'ai strictement interdit les jeux vidéo. Et depuis, ils sont devenus de bonnes personnes. Exemple, il y en a un, il est devenu PDG d'une grande entreprise pour slip. Et le deuxième, il est devenu ministre.
Et pensez-vous que c'est grâce à vos restrictions que vos enfants ont réussi dans leur métier?
Oui, je pense qu'ils sont devenus de bonnes personnes grâce à l'éducation que je leur ai apportée. Quand on sait qu'un élève sur 8 a des problèmes vis-à-vis des jeux vidéo...
Claude, qu'avez-vous à répondre à François?
Alors bonjour, je m'appelle Claude, j'ai 37 ans, je travaille dans un McDo, je vis à Saint-Étienne, j'ai trois enfants, Youssef, Pierrot et Matt. Ils ont une très bonne moyenne et écrasent toute leur classe avec 10 de moyenne, 5 pour Pierrot. C'est le meilleur de mes fils. Je suis venue ici parler de la liberté qu'ont mes enfants sur les jeux vidéo. Ils ont 4, 7, 10 ans, mais ça leur permet quand même de jouer beaucoup aux jeux vidéo toute la journée. Ils ont des Xbox, des PlayStation et n'ont pas de limite d'écran. Je pense que les jeux vidéo permettent d'apprendre aux enfants des choses qu'ils apprendront que grâce aux jeux vidéo.
Et que voulez-vous nous dire à propos des choses qu'on apprendrait sur les jeux vidéo?
Ce que je veux dire, c'est que les jeux vidéo permettent d'améliorer beaucoup de compétences chez un être vivant, comme l'intelligence. Bien sûr, hein, c'est pas tous les jeux qui améliorent l'intelligence, parce que je joue à Fortnite, voilà. Mais je parle plus de jeux de stratégie, comme StarCraft, qui demande aux joueurs de pouvoir traiter beaucoup d'informations et rapidement. Aussi, dans des types de jeux, des compétences de gestion sont nécessaires pour gérer la nourriture ou ses troupes, ce qui est utile dans la vie de tous les jours.
Et qu'avez-vous d'autre à nous dire à propos des jeux vidéo?
Par exemple, j'avais un ami qui était tombé en dépression à cause d'une séparation. Bon, hein, une femme, mais bon, hein, là, c'est tout. Il était au fond du gouffre et ne parlait à plus personne, même par message. Du coup, je lui ai conseillé de jouer à un jeu qui s'appelait GTA, où il y avait beaucoup de liberté. Il a acheté le jeu et 2 semaines plus tard, il m'appelle et me dit « Ah, merci Claude, grâce à toi, je suis sortie de dépression et maintenant je vis ma vie comme je l'aime. »
c'est n'importe quoi. Vous pensez vraiment qu'il a pu sortir de dépression grâce à ça? Non, c'est juste une coïncidence. En plus, il est prouvé que les enfants ont des problèmes d'orthographe à cause des jeux vidéo.
Non, c'est pas vrai! Les enfants n'ont aucun problème avec les jeux vidéo par rapport à l'orthographe. Regardez, moi j'ai joué à Mario Bros, j'ai regardé les panneaux, c'était écrit champignon, C-H-A-M-P-Y-G.
Mais c'est pas du tout comme ça que ça s'écrit champignon!
Mais bien sûr que c'est champignon, ça s'écrit C-H-P-A-Y-G!
Vous voyez que les jeux vidéo...
C'est bon, oula, Claude, François, calmez-vous.
Non!
Nous allons terminer ce débat.
Mais les jeux vidéo, ça sert strictement à rien.
Mais bien sûr que si, ça sert.
Faut couper. Comme vous pouvez le constater, le débat est encore houleux. Gérons l'antenne, à vous les studios.
Après ce débat qui finira sans réponse, de ces huluberlus heureusement pas morts dans leur baignoire, nous restons dans le délire avec une publicité pour un nouveau traducteur. Je ne vous en dis pas plus. Place aux journalistes et deux créateurs d'Aurélia, Robin et Thomas.
Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler de l'application DocChat. Nous avons invité les deux développeurs de ce projet. Elle sera capable de traduire les aboiements de votre chien.
Tout à fait. Nous avons inventé l'application qui traduit les voix-foif de votre chien pour les rapprocher de vous. C'est une application que nous avons développée qui utilise la reconnaissance vocale pour traduire les aboiements et les grognements des chiens en langage humain.
Parlez-nous de comment avez-vous réussi à faire cela ?
Nous avons travaillé avec des experts en comportement canin, donc avec les chiens, pour développer une base de données de sons et de comportements de chiens, que nous avons ensuite utilisée pour entraîner notre algorithme de reconnaissance vocale. Cela nous a permis de créer un modèle de langage qui peut traduire avec précision les aboiements des chiens.
Quelles pourraient être les différentes utilisations ?
Eh bien, il y a plusieurs façons d'utiliser cette application. Par exemple, si vous avez un chien et que vous ne comprenez pas ce qu'il essaie de vous dire, vous pouvez utiliser l'application pour traduire ses aboiements. Cela peut aussi aider au renforcement de la relation entre vous et votre chien et à mieux comprendre ses besoins et ses désirs.
Êtes-vous sûr de la fiabilité et de l'adaptation aux plusieurs races de chiens ?
Oui, notre base de données comprend le recueil de différentes races de chiens, donc l'application devait fonctionner normalement. Et si jamais il y a un problème, il vous suffit de relancer. Je vous propose de faire un test maintenant.
Ce que vous venez d'énoncer signifie « j'ai envie de jouer ».
Je rappelle que l'appli est disponible sur Apple Store et Play Store gratuitement. Un abonnement est aussi disponible pour développer les capacités maximales de l'application. Merci beaucoup pour toutes ces informations.
Eh bien, merci à vous pour cette invitation et je suis sûr que les propriétaires de chiens vont adorer cette application. Ça a marché du tonnerre.
Je vous rappelle de balader votre chien jusqu'à son épuisement et à le nourrir avec 5 000 fruits et légumes par jour.
Quel fabuleux moyen de communication ! N'oubliez pas de suivre les conseils de ces deux créateurs. Et, tout de suite, passons à un sujet planétaire, la pollution.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la pollution. Un sujet touchant, la sensibilité de la majorité de la population.
Émilie et Noémie présentent la pollution plastique sur Campus Grenoble. La pollution a toujours été présente, seulement depuis les années 1900, elle s'est amplifiée dans le monde à cause de la révolution industrielle et menace de tous nous tuer un jour. Nous pouvons apercevoir plusieurs sortes de pollution, comme la pollution électrique, la pollution plastique et encore beaucoup d'autres. Mais c'est sur la pollution plastique que nous allons vous parler aujourd'hui. Pour commencer, posons-nous les bonnes questions. Quelles en sont les causes ? La négligence en est la principale cause. En effet, si une minorité de la population s'inquiète du futur que nous apporte cette problématique, la majorité ne s'en soucie pas et néglige considérablement l'importance de trier et de jeter les déchets dans une poubelle.
Maintenant, quelles en sont les conséquences ? Dans la mer, les plastiques polluants se décomposent en microparticules et contribuent au changement climatique. Mais en plus de cela, les animaux ne connaissent pas ce qui est nocif pour eux ou non. Ils mangent le plastique et en meurent. Seulement, nous avons bien peur que sans les animaux sur Terre, notre survie soit difficile. Sur la Terre, les plastiques contiennent des polluants toxiques qui endommagent l'environnement et causent des pollutions du sol, de l'air et de la mer. Suite à ces conséquences, l'État a pris des mesures contre l'augmentation de la pollution plastique. En France, à partir du 1er janvier 2022, l'État n'a plus le droit d'acheter du plastique à usage unique.
Nous sommes tous libres de prendre des initiatives contre la pollution ou non, rien ne nous l'oblige. Seulement, si des initiatives ne sont pas vite prises, nous avons bien peur qu'un jour, nous ne puissions définitivement plus rien faire contre la pollution.
Nous remercions ces écologistes pour nous avoir prévenus de l'impact de la pollution sur la planète et de l'explosion future de notre planète. nous enchaînons avec un débat de vieilles branches et de jeunes pousses sur la liberté d'aimer de la musique que l'on veut.
Bonjour, nous voici sur Campus Grenoble. Nous allons vous présenter une fiction et une découverte musicale qui présentera la liberté d'aimer les musiques que l'on veut. Tout de suite, la fiction de...
L'arbre de la liberté musicale.
Bonjour, ça va vieille branche?
Oh, salut jeune tronc, ça va aujourd'hui?
Ah oh ouais, super. Et tu sais que j'ai découvert une nouvelle chanteuse. Tu veux écouter?
Oh non, pas du tout, j'aime pas les nouveaux.
Ah oui, je suis bête, les vieilles branches, ça écoute que des trucs de vieux, comme Sardou, Claude François, Téléphone, Mireille Mathieu.
Oh, t'as pas le droit de te moquer, jeune pousse.
Ah ouais, t'as raison. Bon, tu veux écouter?
D'accord, j'écoute ton truc.
Tiens, prends le casque.
Quand j'ai pointé le bout de mon nez sous vos regards ravis, vous ne vous en doutiez pas du secret que j'avais gardé en rêvant de la vie au chaud pendant 9 mois. Le docteur a fait remarquer mes petits yeux en amande et mon nez un peu trop plat. Maman, elle a beaucoup pleuré, papa déboussolé, n'osait parler de moi. Mais moi je suis joyeux, oh, 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 oh. Je veux pas vous déranger, je veux seulement être aimé. Joyeux, oh, 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 oh. Et ouais, je suis différent, autant que chaque enfant. J'ai un petit quelque chose en plus, c'est pas un quelque chose en trop. Ça vient avec bien plus d'amour que le sanglot. C'est mon petit chromosome en plus qui rend le monde encore plus beau. Avec mon grand frère, lui il dit qu'il est fier que je sois différent. Mais parfois ça peut le rendre amer que grandir et parler me prennent autant de temps. Mes parents sont des combattants pour que dans la vie courante je parvienne à m'intégrer. Et comme je les fais tous craquer, famille, pro et copains sont là à nos côtés. Avec moi joyeux, oh, 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 oh. Je vais tous vous chambouler, vous apprendre à aimer.
Ouais, je trouve ça nul, tu peux pas aimer ça.
Bah, tu sais, je peux écouter ce que je veux, et toi aussi. D'ailleurs, désolée vieille branche d'avoir dit du mal de tes musiques.
Ah, t'as raison, on a le droit d'aimer ce qu'on veut.
Et pour info, c'était Silou qui chantait dans mes écouteurs. En tout cas, merci et à très bientôt avec de nouvelles musiques vieille branche.
Salut avec tes phrases à longe.
Vous êtes sur Radio Campus.
Après cette joyeuse musique, et pas trop quand même, de Silou bien sûr, nous enchaînons sur le Doc Brandon qui va nous parler de vêtements et de leurs répercussions sur les enfants.
Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la marque Off-White. Le créateur de Off-White s'exprimait comme il le pensait, des collaborations des autres marques. Cette marque offre une liberté d'expression plus développée que les autres.
Virgil Abloh, né le 30 septembre 1980 à Rockford, est un créateur américain pluridisciplinaire aux intérêts multiples. C'est le créateur de la marque streetwear Off-White. Cet artiste est mort à l'âge de 41 ans suite à un cancer. Il a accompli beaucoup de choses dans sa vie. Il lance un concept store à Chicago en 2009. En 2011, il a été directeur artistique de l'album Watch the Throne.
Off-White est une marque lancée en 2012 par Virgil Abloh et qui propose des vêtements dans le style streetwear. La marque se représente entre 24 magasins à travers le monde et propose des produits comme des baskets, des vêtements et des accessoires. Virgil Abloh a fait plusieurs collaborations comme Louis Vuitton et Nike. C'était un designer, réalisateur artistique et un compositeur. Il est mort d'un cancer du cœur juste avant un défilé de mode qu'il attendait tant. Son entourage ont été beaucoup affectés par sa mort car il tenait beaucoup à ce défilé. Drake s'est même tatoué son nom.
Après son décès, c'est le styliste Ibrahim Camara qui s'occupe de la direction de la marque Off-White.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet dont on ne parle pas très souvent à la radio et qui est un sujet qui peut aussi bien intéresser les adultes et les enfants. c'est la liberté de circulation, et plus précisément, celle des jeunes.
Tout d'abord, nous allons répondre à la question que tout le monde se pose.
C'est quoi la liberté de circulation ?
Ensuite, on va évoquer le fait qu'en général, les parents n'accordent pas la même liberté de circulation selon le sexe de l'enfant. On va aussi parler de la différence de liberté de circulation entre ville et campagne. Et pour conclure, nous allons finir avec un petit micro-trottoir où l'on va interviewer des enfants à partir de 11 ans habitant à Grenoble. La liberté de circulation, c'est quoi ?
La liberté de circulation, c'est le droit des personnes de se déplacer et de voyager librement.
Mais pour les enfants, c'est quoi la liberté de circulation ?
Pour les enfants, c'est différent. C'est plutôt le fait que les parents autorisent ou non de laisser leurs enfants sortir. Cela peut être en ville, seul ou entre amis par exemple. Les parents acceptent ou non de laisser leurs enfants sortir selon l'heure ou encore selon le jour.
Mais justement, si on est une fille ou un garçon, avons-nous la même liberté de circulation ?
Eh bien en général, non. Souvent les filles sont moins libres que les garçons.
Mais pourquoi ?
Eh bien, on considère que les garçons peuvent mieux se défendre et sont moins exposés aux risques de la ville. Contrairement aux filles, qui sont beaucoup plus exposées aux risques.
Mais si on habite à la campagne ?
Quand on habite à la campagne, les enfants ont plus souvent l'accord de leurs parents pour circuler, car il y a moins de dangers et de risques comme les voitures, les trottinettes ou même les personnes en elles-mêmes.
Est-ce que tes parents t'autorisent à aller chez des amis ou sortir en ville après les cours ?
Oui, des fois, mais ils me fixent des limites. Par exemple, ils me disent « t'as le droit de sortir, mais tu dois rentrer à telle heure ». Voilà, quoi.
Après les cours, souvent je rentre chez moi. Je peux pas trop rester chez des amis après. Il faut que je leur demande l'autorisation, que voilà.
Ils m'autorisent, mais pas après une certaine heure.
Alors ça dépend. Ça peut être c'est pas vraiment très tard. Donc jusqu'à 17h par exemple, si je sors à 16h. Et si je sors à 17h, ça peut être jusqu'à 18h. Mais ça dépend quel ami, s'il les connaît ou pas. Et si c'est risqué, si par exemple il y a des grèves, il va me dire non. Ou il faut que je prévienne avant, que je l'appelle ou je l'envoie un message selon le moment.
Alors ça dépend. Des fois, il faut que ce soit planifié. C'est-à-dire que je peux pas les appeler en disant « ce soir, je rentre plus tard ». Et après, il faut que ce soit des gens qui connaissent et en qui ils ont confiance.
Est-ce que tu as le droit de sortir manger ou faire une activité seule ou avec tes amis, par exemple, le samedi soir ?
Ouais, des fois, avec des amis, je fais ça.
Alors, non, pas le samedi soir. Mes parents, ils sont d'accord s'ils connaissent les parents de la personne et s'il y a des parents qui surveillent. Donc, s'il y a une médiation ou quelque chose comme ça, qui permet de savoir ce qu'on fait. Et sinon, non, j'ai pas à ressortir seule en cas de problème et tout. Faudrait qu'ils sachent ce qui se passe. Et je pense qu'ils s'inquiéteraient beaucoup trop pour ça, donc non.
Seule, je sais pas trop, mais oui, le samedi soir. Mais avec mes amis, oui, mais ils me fixent toujours des limites. 19h30 ou un truc comme ça.
Oui, j'ai le droit, mais dans mon village, enfin pas dans Grenoble.
Le samedi soir, oui, du moment que j'ai fait tous mes devoirs, et encore une fois, si c'est planifié et qu'ils connaissent les gens avec qui je sors.
On va terminer avec une petite conclusion.
La liberté de circulation dépend des parents. On a remarqué que les parents préfèrent que leurs enfants sortent avec des amis plutôt que seuls. Les parents préfèrent que ce soit des personnes qu'ils connaissent. On constate aussi que les personnes, en campagne, ont plus le droit de sortir, car il y a moins de risques, d'accidents ou de mauvaises rencontres.
Merci à ces deux journalistes pour ce micro-trottoir et ce reportage sur la liberté de circulation dans chaque famille différente. Maintenant, on va passer à une liberté de penser sur ChatGPT.
Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de ChatGPT.
C'est vrai, moi aussi on m'a invité, mais en fait c'est quoi ? Je connais pas moi.
Alors ChatGPT, c'est quelque chose qu'on appelle une AI, qui s'appelle une intelligence artificielle en français, qui est quelque chose qui va te permettre de répondre à certaines questions que tu poses ou des choses comme ça.
Alors comment ça se présente ?
Ça se présente, c'est un site créé par la boîte OpenAI, qui a été rachetée par Microsoft en 2019.
Ok. Et du coup, tout le monde peut dialoguer avec cette intelligence artificielle.
C'est ça. Presque ça, tout le monde.
T'es sûr ?
Ouais. Toutes les personnes qui ont quelque chose qui te permet d'aller sur Internet peuvent dialoguer avec ChatGPT en se créant un compte.
Donc c'est sur une page web que ça se passe.
C'est ça.
Ouais, mais pourtant, moi, j'ai vu sur les réseaux que, à ce qui paraît, ça allait devenir payant.
Aux États-Unis, je sais que maintenant c'est devenu payant.
D'accord.
Du coup, c'est un peu énervant. Mais pour les Français, je ne sais pas si c'est déjà devenu payant ou pas.
En fait, au départ, ils mettent ça pas payant pour nourrir un maximum le robot. C'est et ça. Ensuite, dès que le robot a assez d'informations sur une nation, il fait raquer.
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce que vous en pensez, les autres ?
C'est un grand complot, ça.
Enfin, c'est surtout quand...
Vous avez... Qui d'abord, ici, qui a déjà dialogué avec ChatGPT ?
Beaucoup de monde, quand même, on peut le voir.
Combien ? 1, 2, 3, 4, 5...
On voit le nombre de camps, quand même.
Ah ouais, les gens qui font pas leur devoir. Hein.
Pas que ChatGPT, ouais, dis-nous en plus.
Bah aussi, j'ai trouvé une application sur l'Apple Store.
Ouais.
Et en fait, cette application, elle réunit plusieurs intelligences artificielles. Donc ça fait plusieurs, en gros, personnes.
Comme quoi ?
Plusieurs personnes. Et en fait, il y en a typiquement, je crois qu'il y a l'intelligence artificielle qui s'appelle Claude. Et bah elle est forte pour faire des longs textes. Après, il y en a une qui s'appelle Moé, je crois, qui fait des textes plus courts, mais qui sont bien écrits en français. Et donc ça regroupe plusieurs intelligences artificielles, dont il y a ChatGPT dedans. Et aussi, grâce à cette application, on peut utiliser ChatGPT. Voilà.
Ok. Du coup, quelles sont les utilisations en fait, que vous en faites ?
Alors, ChatGPT, souvent, chez les jeunes, c'est utilisé pour faire des exercices, des évaluations ou des DM. Pour
ouais.
Des personnes un peu plus âgées, cela peut permettre de répondre à des questions qu'ils se posent, pour répondre à des débats, ou alors pour écrire des textes ou des choses comme ça, parce que c'est assez facile. On peut lui donner un nombre de lignes, même une langue à respecter, et il pourra t'écrire un texte très facilement, en moins de une ou deux minutes.
J'avoue, j'ai fait le test avec ma fille de 4 ans, on lui demande une histoire avec des licornes, des paillettes, du caramel et des arcs-en-ciel, et bim, en environ 2 secondes, il y a une histoire qui est à la taille de celle d'un enfant de 4 ans qui est écrite.
En France, maintenant, ce qui s'est passé, c'est que ChatGPT, il y a tellement de comptes qui ont été ouverts que les comptes ne veulent plus s'enregistrer. Et pour pouvoir accéder à ChatGPT, maintenant, il faut payer le ChatGPT Plus, qui coûte 20 euros par mois, ce qui est littéralement une arnaque. Voilà, on ne va pas se mentir.
Okay. D'un autre côté, c'est aussi utile. Je sais que pour les adultes, il y a pas mal de gens qui utilisent ça pour les demandes de subventions, pour tout ce qui est en fait administratif. Il y a aussi une super réponse du robot. Qu'est-ce qui change, franchement, vis-à-vis de Siri ? Parce qu'on avait déjà ça avant, les intelligences artificielles sur notre téléphone. Là, ça n'a rien à voir quand même.
Alors, ChatGPT, il réunit tout ce qu'il peut trouver sur Internet. En mode, si vous voulez, c'est... Ils ont récupéré beaucoup de databases, donc bases de données, qu'ils ont mis dans le ChatGPT, donc dans l'intelligence artificielle, qui a donc permis à celui-ci de devenir plus intelligent, à pouvoir répondre à la question plus facilement et avec des informations plus développées.
Il continue d'apprendre, là.
Oui, c'est ça. Et si on pose la question à ChatGPT 3... qui est en train de créer ChatGPT 4 ? Il répond, c'est ChatGPT 3.
Joli. Est-ce que ça fait pas un peu flipper ?
Si.
Qu'est-ce que vous en pensez, les filles ?
Même mon père.
Vous
n'avez
pas entendu sur ce sujet, non ?
Mon frère, il m'avait montré ChatGPT. Il s'en servait, lui, pour les exercices, un peu, les choses comme ça. Donc, je lui avais demandé si ça pouvait marcher, par exemple, pour faire des sujets d'évaluation, pour s'entraîner et tout ça. Et ça marchait super bien. Et donc à un moment, je lui ai dit, est-ce que tu peux me lui demander de faire une blague drôle ? Et donc il a demandé, et la blague n'était pas très drôle. Donc je me suis dit que dans ce domaine, il n'était pas très fort.
Ah, pas mal.
Il est fort dans tous les domaines.
C'est vrai qu'il y a quand même des limites à ChatGPT. Après, il est quand même. Je pense que si tu reprécises ta demande, c'est ça qui est bon avec ChatGPT, c'est que tu peux repréciser, régénérer les demandes et il prend en compte, toi, les ajustements dont tu as besoin. Et même sur les questions artistiques, il a quand même un fond littéraire et artistique assez puissant. Du coup, ça reste un robot, hein. c'est pas non plus ton nouveau copain. Tu le sens quand même que c'est un robot de l'autre côté, mais ça a quand même beaucoup plus de puissance qu'avant. Quoi.
Et en parlant d'artistique, j'ai vu que la même entreprise a développé DALL-E. Ça permet de. À ce qui paraît, je comprends pas moi.
Ah ouais ?
C'est créer des œuvres.
Si tu rentres quelque chose, donc par exemple, tu veux. Une œuvre où dedans il y a des singes, des hélicoptères et des vaisseaux spatiaux. Et
mort.
Tu rentres dedans et du coup, ça le fait.
Ah, joli. Un peu comme Google Dream, là, le truc où ils mélangeaient les images d'Internet pour avoir des images psychédéliques.
Ouais, c'est ça, sauf que là, c'est toi qui décides ce que tu veux mettre dedans.
Si par exemple, on a envie de créer un héros, par exemple, et on a juste à donner les mots-clés qu'on a envie qui ressemblent à ça, à ça, à ça, et ça va nous le générer tout seul.
Mais il n'y a pas des problèmes, genre, si tu mets réaliste, c'est vraiment réaliste ?
Bah après, il est toujours en apprentissage, donc ça peut quelquefois pas du tout être ce que tu voulais, ou ça peut être pas réaliste du tout.
Okay.
Et il y a plusieurs intelligences artificielles qui font ça. Mon père, il m'en a parlé une, mais j'ai oublié ce que c'était. Mais à ce qui paraît, ça marchait très très bien. Et Dali aussi, ça marche bien. Mais le problème, c'est qu'il y a des points, un système de points, et à partir du moment où t'as plus de points, bah tu peux plus utiliser l'application.
Ok.
Du coup, faut se recréer des comptes.
Classe de 4ème G.
Oh, classe de 4ème G.
Présente. L'apérophonie.
Sur Radio Campus.
Oh, yeah, yeah, yeah. Radio Campus.
On espère donc que cela vous aura plu. Si vous êtes toujours là, merci de votre écoute. Et si vous venez d'arriver et que vous voulez réécouter, vous avez le podcast sur campusgrenoble.org. Merci à toutes et à tous. C'était la classe de 4ème du Collège de la Salle sur Radio Campus.
Ah si ça marche. Au revoir.